Salut Johan, merci de me rejoindre sur le podcast. On va se prendre une petite heure pour se poser pas mal de questions. Donc, écoute, j'ai fait ta connaissance dans un des groupes d'entrepreneurs dans lesquels on est tous les deux. Et donc, je t'ai découvert et j'ai découvert ton parcours et j'ai trouvé ça vraiment fascinant. C'est assez hors du commun. Et donc, je me suis dit qu'on pouvait prendre un peu de temps comme ça pour discuter de ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant et où tu en es aujourd'hui. Donc, effectivement, juste en quelques mots, tu as démarré le code à 14 ans. Dans tes études, tu as cofondé, je crois, un des plus grands makerspaces d'Europe. Ensuite, tu es parti en Asie. Tu as bossé pour une startup. Puis après, tu as fondé la tienne que tu as cofondé et que tu as amené jusqu'à la rentabilité, jusqu'à une forte croissance, de forts revenus, plusieurs marchés, beaucoup d'employés. Et là, il y a eu un pivot dans ta vie tu as décidé de prendre un peu de recul et de lancer alors justement un nouveau projet, un fonds d'investissement dans la climate tech et l'économie verte et responsable. Donc, tu as été primé à plusieurs reprises, notamment par Forbes qui t'a choisi dans son classement 30 under 30. Donc, tu as été amené à rencontrer pas mal de beaux mondes, tu t'es créé un bon réseau et ça t'a permis justement maintenant d'avancer sur ton fonds d'investissement, d'identifier de belles opportunités et c'est ce qui t'occupe aujourd'hui. Alors, on va revenir un peu sur tout ça, un peu dans le détail. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, d'ailleurs, je crois que tu viens à peine de fêter tes 30 ans l'année dernière, je crois, il n'y a pas longtemps. Donc, tu es effectivement très jeune et tu as déjà fait tout ça. Donc, c'est particulièrement impressionnant. Est-ce que tu peux revenir sur peut-être la période de tes études, ce qui t'a amené en Asie et ce qui t'a amené à créer donc GetLinks. On va peut-être déjà passer un peu de temps sur cette première partie. Pas mal de questions aussi là-dessus.
Merci Thomas pour cette invitation et pour ce chat. Bon, ça sonne super bien tout ça. Et là, quand tu le dis, c'est vrai que je me dis, mais c'est vrai que j'ai fait tout ça. Non, c'est pas moi. Je pense que c'est juste one step at a time. Et bon, au final, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses comme ça, mais chacune de ces aventures ont été juste. Une épiphanie très courte, passionnelle, et voilà, tu sais jamais ce qu'il y a après en fait. Donc, quand on a cofondé La Paillasse, le makerspace dont tu as parlé à Paris avec Thomas Landrin et six autres personnes, hein, j'étais pas tout seul.
Bien sûr.
C'est jamais une aventure, c'est jamais quelqu'un tout seul. C'est ça que je veux commencer, c'est que je commençais par dire, c'est que tous ces éléments que tu as mentionnés, ça a toujours été des gens extraordinaires avec moi qui m'ont leadé, qui m'ont amené à faire des choses, qui m'ont inspiré. Et ce n'était pas juste moi. Donc ça, je commençais par ça parce que ça m'énerve les gars qui se la pètent un peu trop dans les podcasts.
Non, mais c'est tout à ton honneur.
Donc c'est important. Mais effectivement, oui. Ça a été un voyage qui a commencé quand j'étais en France, qui s'est accéléré quand je suis passé à Paris et qui a terminé à Shanghai et ensuite à Singapour et maintenant à Bangkok. Donc, ouais, c'est une aventure assez folle. Pour répondre à ta question, qu'est-ce qui m'a motivé à l'époque? D'être dans la tech, parce que bon, j'étais un peu le seul de toute l'école à être dans la tech. Hein. Quand j'étais lycéen, il y avait enfin, personne que je connaissais qui faisait du code. À l'époque, moi, j'étais un peu un nerd, tu vois. J'étais un peu. Euh,
T'as grandi où en France?
j'ai, j'ai grandi à La Seyne-sur-Mer, à côté de. À
Toulon.
côté de ouais, Toulon, ouais.
Ah ouais, dans le
Je suis
Var.
né à Hyères-les-Palmiers. Donc un petit bled vraiment vraiment tout petit et j'ai grandi dans cette région voilà entre Nice et Marseille quoi
Ouais.
Aix-en-Provence aussi donc à l'époque j'étais un peu un nerd et avec mes amis on jouait aux jeux vidéo et puis un jour j'étais puni en fait j'étais puni d'internet puisque je jouais trop à World of Warcraft. Et j'étais super énervé parce que j'allais louper mon tu sais on joue en guilde donc il y a des raids et des sessions que tu peux pas louper
Ouais.
et donc je m'étais dit je vais apprendre à le PHP pour pouvoir me faire un serveur privé comme ça quand même parce que si mes parents me coûtent internet je peux quand même jouer. Donc c'est comme ça que je me suis mis à apprendre le PHP. En fait, c'était très facile. Tu avais juste à copier-coller du code, en fait.
Ouais.
Et du coup, je me suis rendu compte, bah tiens, en fait, ouais, c'est pas si compliqué que ça. Parce qu'on les met toujours dans une sphère un peu waouh, géniaux. Enfin, les ingénieurs, beaucoup, c'est du copier-coller, quoi. Si tu as fait maths sup maths spé, là, faut être un génie. Mais sans ça, juste ingénieur, bon, du coup, ça a été un peu le début du truc. Et de là, ça m'a amené à continuer à faire du code parce que j'aimais bien hacker des passwords pour rigoler avec mes amis. Parce que j'aimais bien, à l'époque, il y avait les Anonymous, donc j'aimais bien l'idée de faire partie de groupes comme ça, supranationaux, alors que j'avais 14 ou 15 ans. Et donc, je faisais des trucs un peu à la con comme ça. Je peux pas les mentionner ici, mais oui, j'étais un peu actif dans ces groupes-là, sur le dark web, tout ça, pour faire un peu de hacking. Et je trouvais ça super cool de pouvoir me dire que j'étais différent et que j'avais cette arme. Que personne ne connaissait, qui était le terminal. mais j'étais pas très fort, pour être honnête. J'ai toujours juste copié et collé des trucs et édité du code. C'est tout ce que je sais faire. Je suis pas un créateur. Quand je suis arrivé à Paris, ça a été une autre histoire parce que en fait, ça m'a propulsé à être accepté dans une école promis qui est incroyable, qui est le SCP, parce qu'ils cherchaient justement des profils comme ça. Qui était hybride en fait. Donc il y avait une option spéciale, option entrepreneuriale, qui laissait venir des profils d'autres horizons que les gars de grande famille. Si tu avais un truc, si c'était un designer ou si c'était un développeur. Et donc c'est comme ça que je suis rentré là-bas. Et j'ai appris le management un petit peu. Et là, j'étais entouré de gens très très smart, de fils à papa, de grandes familles, qui allaient probablement gérer des business de milliards de dollars quand il allait reprendre la fortune familiale. Mais là, j'étais intéressant pour eux parce que j'étais le gars qui pouvait un peu coder des trucs, qui pouvait leur apprendre des trucs, qui pouvait faire des sites internet. Et donc, j'ai continué à garder cette relation avec la tech en allant à des hackathons. Ça, c'était le bénéfice qu'il y avait à Paris, qu'il n'y avait pas dans le sud de la France, c'est que tu avais des hackathons. Tous les week-ends, il y avait des événements dans la tech, des startup week-ends, des hackathons, des trucs comme ça. Et donc, un jour, je suis allé à ce hackathon qui était le NASA Space App Challenge. Et ça, c'est le truc qui a vraiment changé ma vie et toute sa trajectoire.
Ouais.
Les 20 dernières années, enfin les 15 dernières années, vraiment, c'est que j'ai participé à ce hackathon et j'étais super fier de faire un truc, pitcher mon idée, machin. Et puis, juste après, il y a un gars qui m'a mis une grosse claque dans la tête, en fait,
Ouais.
parce qu'il a fait un truc 10 fois mieux que moi et que mon équipe, avec 10 fois moins de tout, en fait. C'était un Africain qui venait du Togo.
Ouais.
Et les mecs, en 3 jours, enfin 2 jours de hackathon, en remote, avec un gars à Paris avec nous et 4 gars au Togo, ils ont récupéré des matériaux usés dans des déchetteries et ils ont fait une imprimante 3D avec.
Ah ouais, d'accord. Ouais, carrément.
Donc ça, c'était la claque. Ça, c'était la claque qui a changé ma vie. J'étais étudiant à l'époque et j'étais en dernière année de master et ça m'a vraiment. C'est le genre de truc que tu dis, putain, mais j'ai eu la chance d'avoir Internet tout ce temps
Ouais.
et qu'est-ce que j'ai fait avec?
Voilà.
Alors que tu avais ces jeunes qui avaient une connexion vraiment pourrie. Et quand ils utilisent Internet, c'était pour apprendre l'électronique et à créer des robots en Afrique, quoi. Enfin, et moi, c'est quelque chose qui résonnait parce que mon père est africain, mais j'ai jamais mis les pieds en Afrique, en fait, jusqu'à
Ouais.
l'année dernière. Donc, j'ai vraiment été une espèce de noix de coco, là, comme on dit. Blanc, blanc à l'intérieur et un peu noir à l'extérieur. Mais au final, quand j'ai vu ce gars-là, je me dis, mais c'est incroyable. Non seulement il a vraiment pas eu de chance en termes de ressources financières, etc. Mais en plus, il fait un truc 1000 fois plus intéressant que tous mes potes de l'ESCP. Parce qu'à côté, à l'ECP, on pensait tous, ah ouais, fintech, travel apps, enfin des idées vraiment débiles en fait. Quand tu réalises que, ouais, il y avait des super, des nécessités avec des vrais problèmes et que les gens qui ont ces problèmes, en fait, pensaient plus à ces solutions que ceux qui ont les moyens de les résoudre. Donc ça a été vraiment le moment où tout a changé pour moi. C'était en 2010 ou 2011 à Paris.
Ouais, il n'y a pas si longtemps quand même.
Et ensuite, après ça, j'ai aidé ce gars-là. J'ai aidé à faire une campagne de crowdfunding sur Kickstarter. Et j'ai rencontré plein de gens dans le milieu hackerspace. Enfin, à l'époque, ça n'existait pas le hackerspace, justement, mais c'était des communautés. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon ami Thomas Landrin, qui commençait un hackerspace illégal dans une gare abandonnée de la SNCF.
D'accord.
Et que j'ai rejoint en tant qu'un peu le business guy, quoi.
Ouais.
Et effectivement, c'est comme ça que après c'est devenu c'est improbable, mais en gros la police nous a viré du truc et on a fait la une dans les journaux et dans plein de journaux et en fait à la fin Anne Hidalgo nous a donné une subvention pour créer une association et créer un espace dans le sentier.
Super.
Et donc c'est là où effectivement on a eu 700 mètres carrés de hackerspace au milieu du sentier alors que j'avais 20 ans quoi. 21, je sais plus, 21 je crois.
Donc là vous bricoliez des prototypes, donc c'était pas que du software quoi, c'était aussi du hardware, toutes sortes de...
C'était super super hardware oriented. C'est les gens qui étaient les cofondateurs de ce truc là, c'était tous des PhD étudiants qui devaient faire leur thèse, mais l'école où ils étaient, le labo se fermait à 5 heures de l'après-midi.
Ouais.
Et généralement, quand t'as pas le temps. Donc, ils cherchaient à avoir un labo ou à avoir des outils pour pouvoir bricoler leur projet de thèse après, le soir, etc., quand ils ont du temps. Et au début, c'était vraiment venu de ça. Thomas, il faisait sa thèse en biologie synthétique.
D'accord.
Le
Covid, c'est lui, c'est ça? Non.
Bah, typiquement, c'est le genre de gars qui a vraiment beaucoup aidé à résoudre, ou en tout cas à s'adapter à ça, parce qu'il a créé un kit test Covid à 1 euro que tout le monde pouvait faire chez soi. Ça a fait le buzz sur Internet. Je pense que tu peux regarder sur Combini.
Ouais.
Sa vidéo, elle a fait le buzz, quoi, parce que du coup, tout le monde a pu faire des tests Covid gratuits, en fait.
Ah, et puis ça, il a pu le distribuer à grande échelle.
Bah, tu pouvais le faire de la maison, en fait.
D'accord.
Regarde, c'est super intéressant. Donc non, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt ce genre-là qui avait déjà les weapons pour prévenir éventuellement ou aider si des situations comme ça arrivaient. Des mecs vraiment brillants. Tu vois, y en a un, il faisait un PhD dans la robotique, un synthetic biology, un autre c'était en software engineering. Donc c'était un peu NBYC. On avait un neuroscientist aussi, donc c'était neuro, bio, computing, dans le même squat.
Pas mal.
Et ensuite dans ce lieu, donc on avait un lab pour les drones avec des gars qui chopaient des pièces de drones ou des pièces qui faisaient des drones avec. Il y avait des gars qui récupéraient les labos de matériaux de labos abandonnés. Et donc avec ça, ils ont pu avoir des centrifugeuses pour faire de l'analyse de l'ADN, enfin des trucs de fou quoi. Juste avec du matériel récupéré. On avait les premières imprimantes 3D de France. Le club de 3D printing, le premier en France, était avec nous aussi dans cet espace. Enfin, c'était vraiment un mix de mecs super super farfelus, mais tous des génies quoi. À part moi qui étais le business guy, mais du coup j'ai vraiment beaucoup beaucoup appris d'eux et j'ai appris surtout à comment finalement utiliser la tech pour quelque chose de mieux que juste faire de l'argent. Ça a été la leçon entre le hackathon, le mec qui m'a mis cette claque dans la tête, et ensuite cette aventure avec la paillasse. C'était la technologie peut, c'est une arme très puissante. Comment est-ce qu'on va l'utiliser, c'est l'homme qui va le décider, et ça peut être dans le bien comme dans le mal, et c'est juste toi qui peux définir ce que tu vas en faire, quoi. Et ça a été vraiment un moment important pour moi.
Non, mais c'est intéressant parce qu'en plus, il y a cette dualité et même cette synergie entre les bits et les atomes. Ouais. Et on la retrouve avec ce qui s'est passé pour toi ensuite en Asie, avec ta première startup, puis après Atlas Capital, où là vraiment on investit dans la climate tech avec un effet concret sur le terrain, sur la matière, sur notre monde. Ouais. Je vois que l'heure avance et il faudrait qu'on soit en mode Joe Rogan pendant 4 heures, mais on repart le temps. Donc, du coup, qu'est-ce qui t'a amené en Asie et explique-nous la transition entre. Alors, je crois que tu as fait un petit passage en Chine chez Ernst & Young, après Lazada, puis ensuite tu as cofondé ta startup avec un Thaïlandais, si j'ai bien compris. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer de cette transition et l'histoire GetLinks, cette startup que tu as cofondée?
Ouais, donc la paillasse à ce moment-là, ça devait être mon premier travail quand je sortais de l'école. Parce que je devais être le business guy, quoi. Donc, peut-être j'aurais été COO ou quelque chose comme ça. Le gars qui va lever des subventions. Et on a eu la chance de faire une mission avec le SCP où ils nous envoyaient à Shanghai pour faire du consulting pour Ernst & Young. Et ça, ça a été un peu la claque dans ma tête, en fait.
La deuxième.
C'est vraiment des claques. Hein. Ouais. Quand tu viens de Nice ou de Hyères-les-Palmiers et que tu arrives à Shanghai, c'est un village de poissons, de pêcheurs.
C'était quelle année, ça?
Bah, 2011 ou 2012. 2012. Non, peut-être même 2013. Je suis pas très bon sur ça.
J'y étais dans ces années-là aussi pour ouvrir notre bureau là-bas.
Ouais. C'était 2012-2013, ouais. 2013, parce que 2014, je suis arrivé pour bosser chez Lazada. Donc, c'était 2013. Ouais. Et là, j'hallucine, en fait. Je vois une ville... Tout le monde est jeune, à comparer en France, où tout le monde est vieux... je suis désolé, hein, mais tu vois, quand tu marches dans la rue en France, c'est vieux.
Peut-être un peu plus dans le Var, en plus, ouais, c'est sûr, si tu compares.
Ah oui, Paris un peu moins, c'est sûr. Mais dans le Var, laisse tomber. Tu te balades, c'est la maison de retraite, quoi. Et à Shanghai, tout le monde est jeune, tout le monde va super vite, tout le monde... T'as des espèces de trains suspendus là, enfin t'as des autoroutes suspendues, t'as des buildings de 200 mètres de haut avec des lumières, enfin c'est Star Wars, c'est Coruscant le truc. Ouais. Et donc ça c'est une claque. Et le deuxième élément, c'est on avait la chance de faire cette mission chez EY, donc t'imagines costard, cravate. Dans la tour la plus haute, là, au milieu de Pudong, la tour des capsuleurs, étage 70, enfin, c'était un truc de fou. Parce que tu sors de l'ESCP, tu te retrouves à être avec des mecs là, comme ça, enfin, c'est incroyable. Et de l'autre côté, la mission qu'on faisait, elle était vraiment... c'était vendre, on consultait Chanel, à comment faire du market penetration sur la Chine, quoi. Donc, c'était comment vendre plus de sacs à main aux Chinois. Donc, t'as ce clash, encore une fois, avec « Waouh, l'environnement est génial, mais le job est super chiant, quoi. » Ouais. Enfin, pour être honnête avec toi, c'était intéressant de consulter des marques de luxe, mais voilà, le all output, c'était c'est quoi, c'est vendre des sacs super chers à des gens qui n'en ont pas besoin.
Remise en question.
Donc, non, juste un petit peu, mais pas vraiment grosse remise en question à cette époque-là. Mais par contre, Je me suis rendu compte que si j'avais la chance, je voudrais rester en Asie, à Shanghai, pour mon premier travail. Et ce ne serait pas dans le consulting, que ce serait plutôt dans la tech, parce que je voyais qu'il y avait plein de gens dans la tech là-bas avec WeChat. Je pense que tu connais très bien, hein,
Ouais, bien sûr.
tu bosses beaucoup avec eux.
Ouais.
Et donc, j'ai observé à ce moment-là l'adoption incroyable de. C'était tout le début, hein, c'est le début de WeChat, mais les
Ouais.
mecs étaient déjà dessus, tout le monde avait déjà l'app et ils commençaient à faire du social commerce là-dessus. Enfin, c'était des trucs incroyables. Donc ça, je trouvais ça très, très, très intéressant. Et j'ai apply à WeChat, j'ai apply à Google, j'ai apply à Alibaba. Bon, j'étais un renois, quoi. Donc déjà, ça, c'est difficile en Chine. Et surtout, tu parles pas. Je parlais un tout petit peu chinois. Voilà, ils voulaient des gens qui parlaient très bien chinois.
Ouais, compliqué la Chine.
Donc, out. Et par contre, un ami à moi de l'ESCP me dit, tiens, j'ai un stage de fin d'études à Lazada. Alors, c'est pas un job, mais c'est un stage. Tu veux faire un dernier stage, tu peux aller à Lazada, Singapour. Cool. Singapour, pour moi, c'est pas loin de Shanghai, puisque j'y connais rien. Géographiquement, c'est la même chose pour moi. Et donc, je me dis, oh, bah, ça va être super. Je pourrais retourner à Shanghai et prendre l'avion. Et avec un peu de chance, je regarde Singapour. Ça a l'air bien. Ça a l'air comme Shanghai, plein de gratte-ciel et tout. Je me dis, bon, super, j'y vais. Au final, j'arrive. Enfin, ils me payent le billet d'avion. Et le billet d'avion est pour Bangkok.
D'accord.
Parce qu'à Singapour, il y avait juste une toute petite équipe de finance de 10-15 personnes pour payer les taxes à Singapour. Mais en fait, toute l'équipe, enfin,
Elle était à
les.
Bangkok.
Centaines et milliers de personnes étaient à Bangkok, Jakarta. Donc, je me retrouve à Bangkok avec mon costume EY, ma mallette,
Ouais.
consulting. Et bon, long story short, j'ai rencontré des gens extraordinaires dans cette boîte. C'était le tout début de Lazada. Donc, tu sais, c'est le moment où tu. Je suis arrivé en tant que stagiaire. Hein, il me donne le siège en face, sur la même table que le CFO, le gars qui enfin, il a quand même levé 200 millions d'euros dans la boîte. C'est un ancien de Wall Street, l'ancien partenaire de JP Morgan, qui se retrouve en face de moi à
Ouais.
bosser pendant 6 mois. Et du coup, tu apprends. Enfin, déjà, le mec, c'est un requin. Et tu apprends énormément de comment ce genre de personne pense et travaille. Et ça a été un truc vraiment. Ça a été un vrai un MBA, quoi, en fait, en 6 mois.
Ah, c'est vrai que Rocket Internet, ils sont connus hein, pour aussi pour le recrutement et c'est une sacrée école.
Les seniors exécutifs de Rocket, c'est des vraies machines. C'est des anciens Wall Street, c'est des requins, mais c'est vraiment impressionnant. L'éthique du travail qu'ils ont en termes de productivité, elle est imbattable. Après, l'éthique en termes de human, bon, c'est différent, mais en termes de productivité, c'est vraiment incroyable. Donc, j'ai beaucoup appris de ça. Et en fait, avec quelqu'un de mon équipe du marketing, mon ami Thaï, on a commencé à organiser des événements. En fait, on voulait reproduire un truc qui est français que j'avais fait quand j'étais étudiant à Paris, qui s'appelait Apéro Entrepreneur.
Ouais.
C'était un pote de l'ESCP qui avait créé ça. Et il m'appelle, il me dit, John, je suis à San Francisco, c'est trop bien. On a lancé Apéro Entrepreneur. Maintenant, on l'appelle Drink Entrepreneur. Les gens adorent. Il faut que tu le fasses à Bangkok. Bon, bah, pourquoi pas, je me fais chier. Et donc, je commence à organiser Drink Entrepreneur à Bangkok et avec mon partenaire de chez Lazada aussi qui bosse dans ma team. Et en fait, bah, c'est l'épiphanie parce que moi qui étais un petit stagiaire chez Lazada, je peux organiser un événement où je rencontre plein de CEO, plein de gens, des businessmen, des locaux et c'est autour d'une bière, quoi, donc c'est super cool.
Ah oui.
Premier événement, on le fait dans un bar. On a une cinquantaine de personnes, cool. Mais tout le monde a vraiment du fun, quoi. Parce que c'était
Ouais.
pas un événement où tu avais la présentation, machin, chiant, quoi. C'était
Non.
juste, tu viens, tu bois des coups, tu parles aux gens. Et c'était que des gens dans la tech, donc c'était un tout petit nœud, en fait, à l'époque. Et donc, deuxième événement, boum, 100 personnes. Et là, c'était n'importe quoi. Enfin, tout le monde a vraiment adoré. Moi aussi, d'ailleurs. Et du coup, troisième événement, 300 personnes.
Wow, ok.
Sur un rooftop. Et là, je me dis, ouais, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'on vend des tickets. Et en fait, en une soirée, je fais mon salaire de Lazada, en fait. Et donc là, il y a un gars qui vient nous voir et qui nous dit, ah, écoutez, moi j'organise une conférence tech. C'est la première conférence tech, c'est tout petit, hein, c'est 700 personnes, mais si vous voulez, vous pouvez faire l'after party. Du coup, je dis combien, et il nous donne un bon prix, donc on le fait. Et donc on se retrouve à organiser une after party avec Drink Entrepreneur de 700 personnes.
Ah ouais.
Et là, ça a été le moment où je me suis dit, je quitte Lazada, en fait.
D'accord. OK.
J'ai fait 3 fois le salaire de Lazada en une soirée ce jour-là. Pour un truc, enfin, c'est pas compliqué d'organiser des soirées, hein. Tu
Ouais, oui.
parles à un
Là, on a
club.
fait ça aussi. Hein.
Et surtout, c'était génial parce que quand tu organises la soirée, bah, tout le monde, même peu importe le statut social qu'ils ont, combien d'argent ils sont sur leur bank account. Le gars, il te respecte et il te demande de le laisser rentrer à ta soirée. Et donc, en fait, tu es le boss, quoi, pendant 1 heure ou 2, et peu importe ce que tu es, quoi. Donc ça,
Ouais, c'est intéressant.
ça casse les barrières sociétales que tu peux
Ouais.
avoir, d'ailleurs. Et du coup,
Ça te donne accès à un réseau extraordinaire, du coup.
bah, ce soir-là, tous les investisseurs d'Amérique du Sud-Est qui étaient venus à cette conférence, bah, ils m'ont invité à leur table et c'est moi qui leur filais les bouteilles, donc j'ai pris tous les contacts. Enfin, laisse tomber.
OK.
Avec beaucoup, avec mon ami, on a réalisé un truc ce soir-là, en fait,
Ouais.
en cette semaine-là. Et donc après ça, on s'est dit qu'on allait monter une boîte ensemble.
D'accord. Donc là, c'est un Thaïlandais, c'est ça,
C'est un Thaïlandais, ouais,
ton
Pop.
futur cofondateur.
Ouais, Pop, qui est un mec brillant, vraiment. C'est encore une fois. Tu vois, ce gars-là, Pop, c'est vraiment un mec brillant. Et
Ouais. Il était chez Lazada aussi avec toi?
il était chez Lazada,
D'accord.
il avait 3 ans, il a 3 ans de plus que moi, 3-4 ans même. Et tu vois, c'est lui qui m'a amené indirectement à faire ça, parce que moi, j'avais un peu plus le goût du risque. Donc, je faisais
Ouais.
des trucs que lui, il ne pensait même pas faire. Mais par contre, le mec brillant, c'est lui. Tu vois, et donc c'est encore une fois, c'est pareil que pour la paillasse. Moi, j'étais pas le mec brillant, c'était les PhD là. Mais par contre, voilà.
C'est rare d'avoir toutes les qualités du monde. Donc, quand tu as un binôme qui se complète parfaitement bien, ça peut vraiment être derrière très, très, très efficace, quoi. Bon, on a vu
Voilà.
avec Steve Jobs, Steve Wozniak. Bon, y a plein d'exemples.
Donc voilà. Donc là, c'est le moment où on a commencé à faire le black and yellow team, quoi. Et donc on a organisé l'événement tous les mois pendant 1 an, et petit à petit on a créé une app pour connecter les gens pendant l'événement et après l'événement
Ah, c'est
aussi.
venu de là, d'accord.
Et cette app s'appelait Links, donc faire le
D'accord.
lien.
Eh oui.
Et en fait, ensuite, bah, c'est un peu parti en cacahuète.
Dans le
C'est
bon sens.
ouais, bah oui, c'est devenu GetLinks, quoi.
Ouais.
Donc,
Et là, tu avais un peu déjà, enfin, vous étiez conscient que vous étiez en train d'émuler un peu LinkedIn en version locale ou un peu adapté aussi aux circonstances du moment. Tu avais ce succès en tête, j'imagine, bien sûr. On est déjà là, on est dans les années quoi, 2015, 2016.
on était en 2015, fin 2014, début 2015. L'idée, c'était vraiment de prouver à tout le monde que, ok, vous m'avez pas pris chez Alibaba, on va faire un Alibaba, quoi.
Super.
Et on va faire la LinkedIn de l'Asie du Sud-Est, parce que personne n'a pensé à le faire dans la tech, et qu'en Asie du Sud-Est, personne n'utilisait LinkedIn, donc on va le faire.
D'accord.
Et bon, c'était le moment où c'était le startup life, tout était possible. Il n'y avait pas encore eu l'hiver,
Ouais. Ah, bien sûr.
WeWork. Non, c'était le moment où tout était possible. Sky is the limit, quoi. C'était le
Ouais.
truc, vraiment. On était au moment où tout commençait dans la tech ici.
Eh oui.
C'est-à-dire que la tech que tu as pu observer à Paris avec le camping, ou d'ailleurs j'étais un stagiaire au camping à l'époque, et avec Numa et tous ces trucs, le web, tous ces trucs-là, c'est quand je suis arrivé en Thaïlande, ça n'existait pas en fait. On l'a créé en fait avec les Drink Entrepreneurs. On a créé les premiers, on a amené les premiers Startup Weekend, on a créé le premier hackathon à Bangkok. Angel Hack, on a amené de San Francisco pour la première fois à Bangkok. On a vraiment créé cet écosystème tech et en même temps, ce serait arrivé avec ou sans nous.
Ouais, c'est ça. Bah oui, c'était inéluctable, de toute façon, partout dans le
C'était
monde, hein.
inévitable.
Vous étiez au bon moment, au bon endroit pour le faire, et vous l'avez fait.
Voilà. Mais c'est juste qu'on a, moi, j'ai eu la chance de voir ça en Europe. Du coup, de me dire, ah tiens, ça va probablement arriver. Et du coup, on a surfé la vague au bon moment.
Et tu confirmes que, alors parce que tu t'expliquais là avec ton associé déjà, vous complétez au niveau des qualités, mais le fait que lui soit thaï et toi que tu sois, que tu ne le sois pas, c'est aussi un cocktail, je pense, qui fait la différence, parce que ça aurait été peut-être compliqué pour des étrangers comme ça d'arriver en Thaïlande, parce que la Thaïlande, c'est bon, ils ont leur culture, leur langue, c'est quand même pas évident, quoi. C'est pas un pays anglophone comme Singapour ou comme bon, t'arrives aux États-Unis. Là, j'imagine que ça a dû beaucoup aider aussi, ça a dû vous permettre d'ouvrir beaucoup de portes et de faire la jonction en fait entre les deux mondes, quoi, entre tous les investisseurs, les entrepreneurs du monde entier, puis évidemment l'écosystème local.
Si je ne l'ai pas assez dit, ce n'est pas moi, c'est les gens qui étaient avec moi. Sans Pop et sans E, j'aurais rien fait. Donc, bien sûr, tout le crédit et
Bah c'est
c'est.
partagé entre vous,
Non, non,
profondément.
c'est eux les fous parce que moi, tu vois, j'avais 21 ans. C'est eux les grands malades à 25 ans de se mettre avec un gars comme moi, quoi, et de quitter leur travail très bien payé. Mais très très bien payé. On parle de gars qui se faisaient payer 3 000 euros par mois dans un pays où le salaire mensuel c'est 300 euros. Tu vois? Je te parle de
Ah
gars.
bah t'as su sans doute aussi les entraîner d'une certaine façon, donc
Non, ils ont vu que Drink
ça a de
Entrepreneur
la valeur.
ça marchait vraiment bien et que du coup, grâce à cette plateforme que j'avais créée avec eux, on pouvait rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés auparavant. Donc c'est un win-win quoi. Et donc il y avait aussi qui est le CTO qui nous a aidé à créer cette app. Donc c'était Pop et
Et là, donc effectivement, ce que j'ai pu lire, hein, c'est que vous avez été la première startup à faire une série E en Asie Sud-Est avec Alibaba.
ouais.
Donc, tu as monté ça avec tes associés à plus de 100 employés, plusieurs millions de revenus, rentabilité, et aussi sur l'appli, plusieurs millions, hein, de profils inscrits, hein, c'est ça, hein.
Ouais. La rentabilité, ça c'est pas arrivé tout de suite, hein. Ça va être très, très difficile. On a failli crever, couler la boîte 3 ou 4 fois avant que ça arrive. Et avec ces leçons, et éventuellement, oui, on a réussi à être profitable. Mais ça c'est pas arrivé comme ça.
Et le Covid, les lockdowns, les layoffs qu'il y a eu dans différents secteurs, pour vous, finalement, ça a été aussi une opportunité, je crois, c'est
C'est
ce que tu
ça
disais.
qui nous a aidé à être profitable en fait. Si tu veux,
D'accord.
on est passé de 5 millions à 15 millions de chiffre d'affaires pendant le Covid en fait. C'est un truc incroyable parce que, bon, déjà, on a un peu pivoté notre modèle. Au début, on voulait faire une marketplace seulement. Puis ensuite, on s'est rendu compte que le marché voulait faire aussi du staffing. Donc, un peu. Donc, on est passé de LinkedIn à Malte en fait. Et du coup, c'est pour ça que les revenus, la nature des revenus ont changé, et c'est pour ça que ça a aussi beaucoup
Alors,
grossi.
Malte, c'est la mise en relation avec des freelances, hein, il me semble, c'est ça, mais vous,
Ouais.
ça va au-delà.
Oui, mais en fait, Malte, ils font aussi du staffing, c'est-à-dire qu'ils vont faire des contrats de longue durée avec des employés aussi. Ce n'est pas des contrats à durée indéterminée, c'est des CDD. Mais ça, c'est le staffing et ça fait beaucoup d'argent. Donc ces évolutions ont fait que effectivement pendant Covid on a réussi à devenir profitable. Ça n'a pas été facile du tout, hein. On a failli crever juste avant le Covid à cause de WeWork. Mais parce que on avait une équipe de cofondateurs qui était vraiment solide, quand moi je me suis fatigué, il y en a toujours eu un pour pick-up.
C'est ça.
À un moment, ça a été moi qui étais fatigué. Pop, il a pick-up pendant un an. Et ensuite, Pop était fatigué. Moi, j'ai pick-up. Ensuite, on a eu un autre cofondateur, le CFO, qui a pick-up et qui run la boîte maintenant. Donc, ça, j'ai été vraiment très chanceux d'avoir des gens avec des bonnes intentions avec moi.
Et vous avez pu faire un exit, j'ai cru comprendre.
Donc, en fait, quand on a triplé les sales, bon, nos investisseurs, ils se sont dit, Alibaba et JobsDB, ils se sont dit, bon, ça tourne pas mal, on va prendre plus d'equity. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu la chance de leur vendre.
Vous avez fait le cash out à ce moment-là, ouais.
Voilà. Donc, la boîte, elle est pas exitée. Hein. La boîte est toujours sur une IPO d'ici 2 ou 3 ans, j'espère. Mais c'est là où Pop et moi, nous avons pu sortir un peu d'argent pour pouvoir faire autre chose.
D'accord. Et donc, toi, tu es encore actionnaire à ce jour.
Ouais, ouais.
Et tu es encore impliqué sur certains projets, mais tu n'es plus du tout à plein temps, c'est ça hein. Maintenant, tu te consacres.
Je suis sur le board, je signe des papiers et puis j'aide quand même. Voilà, quand il y a du fundraising. Il faut que je sois actif. Quand il y a des gros clients, il faut que je sois aussi actif. Mais non, la boîte tourne très bien aujourd'hui grâce justement à ce cofondateur Kinan qui lui était arrivé pour prendre le flambeau au moment où Pop et moi, on était essoufflés.
D'accord. Et alors après, justement, à ce moment où tu as pu prendre un peu de recul, il s'est aussi passé... Alors, je dirais pas un accident, mais il y a eu un événement un peu qui t'a mis une nouvelle claque et qui t'a fait prendre un nouveau départ, qui t'a apporté un nouveau regard sur le monde, on va dire. Hein,
et que... C'est un accident. C'est un accident et c'est pas le premier. Encore une fois, moi, je marche avec des claques. Hein, t'as compris.
j'ai noté. Ouais.
C'est ce qui me fait marcher, quoi.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
J'avais déjà eu un accident quand j'étais très jeune, mais ça, celui-là, c'était un peu le reminder, quoi.
Ouais.
Le contexte, c'est qu'à l'époque, j'étais encore CEO de Gapings.
Ce que tu dis, c'est que tu as failli mourir, en fait. C'était pas la première fois. Donc, ça, t'as vraiment.
À l'époque, j'étais encore CEO de Gapings. Et donc, c'était. J'habitais à Hong Kong. J'ai passé 2 ans à Hong Kong, c'était un des critères pour Alibaba.
Ah oui.
Il fallait que le CEO soit à Hong Kong. Et donc, j'ai dû habiter à Hong Kong. Et...
T'as rencontré Jack Ma ou quoi?
Oui, j'ai rencontré Jack Ma, qui était encore cool à l'époque.
Ouais, c'est un peu compliqué.
Mais j'ai surtout rencontré Adrienne Cheng, qui est la seconde ou troisième plus grosse fortune hongkongaise et qui est quelqu'un qui est vraiment important dans le réseau que j'ai et qui nous a beaucoup aidé et qui même avec Atlas maintenant il continue à aider, donc c'est un truc assez important. Donc j'étais à Hong Kong et donc toutes les semaines il fallait que j'aille au Vietnam, au Bangkok, Singapour, faire le tour comme ça. Généralement, j'essayais de faire toutes les 2 semaines, mais bon, c'était quand même beaucoup, beaucoup de voyages. Il n'y avait pas 2 semaines sans que je prenne l'avion. Et des fois, je prenais l'avion juste pour une journée. Enfin, c'était infernal, en fait.
Ouais, épuisant.
Épuisant. Et c'était au moment où il y a eu la crise de WeWork.
Ouais.
Donc, tu te rappelles, fin 2019, WeWork a éclaté la bulle, quoi, et ça a été vraiment très difficile pour nous. On était en discussion avec plusieurs investisseurs pour faire un nouveau round et on ne pouvait pas, en fait. Les investisseurs backed off et du coup, on était en galère. Et donc, à ce moment-là, moi, je prenais l'avion tout le temps. Et boum, un Covid. Alors, j'étais au Vietnam à ce moment-là et j'étais fatigué et boum, frontière de Hong Kong fermée, frontière vietnamienne va être fermée dans les jours ou heures qui viennent. Donc, je me dis, je veux pas rester au Vietnam quand il y a une crise mondiale, donc je me casse. Ouais. Donc, je vais à Bangkok.
Ok, tu retournes en Thaïlande.
Et là où on avait notre HQ et bon, je pense que c'est pour 2 semaines, quoi. Et au final, un mois se passe 2 mois se passent, je me dis bon, bah, je vais partir à Phuket. Et au final, j'ai passé 6 mois, presque plus 9 mois à Phuket en fait.
Pendant le confinement, ouais. Enfin, pendant la crise.
Et j'ai dû même ramener, j'ai dû annuler ma lease avec mon appartement à Hong Kong, qui m'a coûté une fortune. J'ai dû annuler, enfin, c'était infernal. Et donc, Phuket, par contre, super. Parce que pour la première fois en 8 ans, ben, j'ai plus besoin d'aller au bureau. Et quand tu es CEO d'une boîte de 150-200 employés et que tu es un des plus jeunes, il faut que tu sois le premier au bureau et le dernier au bureau.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et donc là, j'avais plus besoin de faire ça. Parce que j'étais chez moi et j'étais sur Zoom.
Tout le monde était en full remote, là, dans la boîte.
Ah oui, ouais, ouais, complètement. Et donc, épiphanie.
En short.
Épiphanie incroyable. En short. Je kiffe, quoi. Enfin, en 8 ans, je vis ma vie, quoi.
Ouais.
Et donc, je me suis mis à faire...
Je pense que la Thaïlande est un peu plus ouverte que Singapour, à l'intérieur même de la Thaïlande. Donc, tu pouvais
aller
à la plage, tu pouvais à Phuket.
C'était incroyable. J'étais à la plage. Du coup, je commençais à la plage. Je vais à la plage tous les jours. Je commence à faire de la plongée, free diving. Et puis, je me mets à faire du spear fishing. Incroyable. Tous les matins, je me lève et je vais faire de la chasse au harpon. Je ramène mon poisson. Ma copine le cuisine. Enfin... incroyable, tu vois. Et ensuite, l'après-midi, les Zoom calls, enfin, super.
Ouais, bah c'était mieux que de se retrouver coincé à Hong Kong, ça, c'est sûr.
Ouais, ou Singapour.
Ou Singapour, ouais, c'est clair.
Et je voyais les vidéos traumatisantes des gars qui criaient à leur balcon là, à Singapour et à Hong Kong et à Shanghai. Donc,
ouais, surtout en Chine aussi. Ouais.
Et donc, j'étais super content de ma situation. Et puis, jusqu'au moment où, en fait... je faisais ma chasse au harpon un jour et je nage après un poisson. Et tu sais, chasse au harpon, c'est très difficile parce que en tant qu'humain, tu n'es pas designé pour nager très vite et passer beaucoup de temps sous l'eau. Donc, tu as entre une minute et peut-être 4 minutes si tu es vraiment bon. Mais en général, c'est, vu que tu nages, tu utilises beaucoup d'efforts musculaires. Donc, tu as 1 minute et demie, 2 minutes. Donc, quand tu remontes, il faut vraiment que tu respires. Et ce qui s'est passé, en fait, je me suis retrouvé dans un sac plastique, en fait.
Wow.
Et alors que j'avais déjà plus d'air, que j'avais déjà mes contractions, j'avais vraiment poussé le plus possible pour rester sous l'eau après ce poisson. Et je trouve pas la sortie du sac plastique. C'est transparent, donc je n'avais pas vu en remontant.
Un grand sac plastique comme ça.
Ouais, c'était un truc, je pense, d'un espèce d'emballage d'e-commerce, d'une télé ou d'un frigo.
Ah oui, l'horreur, d'accord.
Et je me retrouve là-dessous et je tombe dans les pommes, en fait.
Et là, t'es remonté à la surface quand même, là, quand t'es en train de te débattre dans ton sac.
Oui, oui, mais je tombe dans les pommes.
Wow.
Et je c'est passé très vite et je me suis... je me suis réveillé accroché à mon ballon avec les poissons que j'avais chassés. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça a été traumatisant.
Ouais. Bon, on va faire un film. Hein.
non, c'est débile comme film. T'imagines
toute l'histoire.
Non, c'était vraiment... je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, j'ai regardé le documentaire après pour essayer de rationaliser la chose. Quand tu es à deux doigts de mourir, en fait, tu as ton corps qui prend, qui parfois peut prendre le
relais, ouais, de ton cerveau. Ouais.
Et va faire des gestes. Enfin, c'est plus toi, tu es plus conscient.
Ouais.
Et tu fais des trucs, parfois, ça arrive, que tu peux faire des trucs un peu de survie, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, je pense que j'ai perdu conscience, mais mon autre moi m'a tiré la corde qui m'attachait à la bouée où j'ai les ballons, les poissons,
ouais.
Et où j'ai pu en fait m'accrocher dessus. Donc c'est la dernière fois où j'ai plongé tout seul en fait. Depuis, je plonge toujours avec des gens, au moins une personne, si c'est pas deux personnes.
Ouais.
Et surtout après ce jour-là, j'ai été vraiment effaré d'une détestation profonde pour le plastique.
Et
en fait, enfin, j'étais là, mais enfin, c'est vraiment nul comme mort, quoi. Tu vois, tu pourrais mourir écrasé par une voiture, c'est nul, mais Mais là, c'est vraiment nul. Enfin,
ouais.
Mes grands-parents, ils ont fait la guerre pour que je puisse être là et moi, je meurs à cause d'un sac en plastique. Enfin, c'est faible, tu vois. Et tu te dis tout un tas de considérations existentielles. Si j'étais mort, là, qu'est-ce que j'aurais laissé derrière moi? Tu vois, mon grand-père, il a été déporté en Allemagne.
Ah, pareil.
Tu vois, et genre, il a fait des trucs, quoi. Et ensuite, il est revenu, il était ingénieur à la RATP, il a créé les premiers bus électriques. Enfin, moi, qu'est-ce que j'ai fait?
Ouais.
Tu vois? Et je me dis, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu des chaussures à des milliers de personnes chez Lazada. ensuite, j'ai vendu des ingénieurs pour vendre des chaussures chez Lazada.
Simplifié, ouais.
C'est pas un Gatling, c'est vendre des ingénieurs pour bosser chez Lazada ou pour d'autres boîtes d'e-commerce.
Ouais, non, mais c'est utile, mais c'est sûr que c'est. Non,
c'est pas utile.
C'est peut-être moins de sens que là, ce que tu as fait ensuite, quoi. Donc là, c'est la grosse remise en question, là, pour le coup.
Grosse remise en question, vide profond. Et j'étais déjà en burn-out en plus avec la fatigue de cette histoire de WeWork, etc. Et là, en fait, ça m'a restressé, en fait, de me dire que j'avais passé toutes ces années pour un truc futile et je me suis dit que je ne voulais plus le faire.
Ouais.
Parce qu'en même temps, le lendemain, je reçois des messages de trucs à la con qu'il faut gérer avec la boîte. Oh, il y a un tel qui veut une augmentation de salaire, mais machin.
Ouais, c'est difficile de se remettre dedans. Ouais.
Et d'un coup, tu n'en as plus rien à faire, en fait.
Ouais, c'est
et,
sûr.
Et en fait... on a eu de la chance que Covid nous aide à grandir beaucoup. On a eu de la chance que mon partenaire cofondateur il est vendu son autre boîte dans laquelle lui il était CEO et du coup il avait une opportunité de venir full time sur.
Il était part time jusque là.
Il était part time, ouais.
D'accord.
Et ça c'était incroyable, un timing incroyable. Ça a pas été.
Circonstance incroyable.
Bah après c'est pas non plus. Tu vois ça a pris un an et demi même. Mais bon, sur un an et demi, je connais beaucoup de CEO qui n'arrivent jamais à sortir de leur boîte parce qu'ils ne trouvent pas cette personne.
C'est ça, c'est sûr. Hein.
Donc, voilà. Après, ça m'a coûté, tu vois. J'aurais pu faire une sortie à 10 millions d'euros sur les Champs-Élysées et je n'ai pas fait ça. J'ai fait une petite sortie, mais assez bien pour que je n'ai plus besoin de bosser pendant quelques années.
Voilà.
Et au moins faire quelque chose qui ne me ruinait pas mon humeur et mon énergie et ma santé.
Bah oui, ce qui est peut-être le plus important.
Ouais. Et donc, quand je suis revenu sur la plage de ce jour-là, tout de suite, je suis allé sur Internet.
Mais là, tu es revenu tout seul sur la plage, en fait.
Ouais.
Tu es réveillé tout seul sur ta bouée, tu es revenu sur la plage tout seul. Enfin, tu as vécu tout le moment tout seul, quoi.
Ouais. Et c'est pour ça que je te dis, tu le refais plus jamais.
Ouais.
Donc plus jamais tu veux aller nager au large tout seul.
Et là je te fais un aparté là, mais j'ai un ami qui a fait son VIE au Gabon. Il était avec d'autres VIE. Un de ses VIE, le gars, il arrive au Gabon, rupture de tendon d'Achille dès son arrivée. Il retourne en Belgique, il se fait soigner, il est motivé. Hein. Il revient 6 mois après au Gabon. Il commence son VIE, passionné de plongée. Un jour ils partent à plusieurs pour plonger, tu sais, en barque, mais lui c'est le seul qui plonge, les autres restent à bord.
Mm-hmm.
Le gars il plonge. Il n'est jamais remonté. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Jusqu'à ce jour, ils ne l'ont jamais retrouvé.
Non, il faut pas plonger tout seul. Il faut pas. Il y a tellement. Bah bon. Il y a tellement de trucs qu'il ne faut pas faire que tu fais quand même. On est con.
Même la montagne aussi. Enfin, tout c'est. De toute façon, quand tu te frottes à la nature. Hein.
Ouais. Donc, c'est une expérience qui te rend un peu plus humble.
Ah, j'imagine.
Et je suis content au final d'avoir vécu ça parce que c'est. Voilà. C'est le genre de truc qui a redéfini ma trajectoire.
Ouais.
Et donc, je reviens sur la plage et je cherche sur Internet est-ce qu'il y a quelqu'un qui collecte le plastique, quoi. C'est pas possible. Il y a quelqu'un qui doit le faire. Et je tombe sur Ocean Cleanup.
Ouais.
Donc, cet après-midi-là, je tombe sur Ocean Cleanup et je suis de 13h jusqu'à 5h du mat. J'étais sur mon ordi, en fait, à regarder ce qu'ils faisaient et d'autres solutions comme ça, d'autres startups qui font du recyclage de plastique. Et je me rends compte que le gars,
Ocean Cleaner, c'est pas ce jeune qui a créé un dispositif au milieu du Pacifique qui rassemble tous les débris en plastique là, pour les récolter d'un coup là.
C'est ça.
C'est lui, là, ouais, c'est extraordinaire.
Le gars, il a 20 ans.
C'est ça, voilà, c'est ça. Okay.
Le gars, il a 20 ans.
Il a trouvé
il a levé 100 millions d'euros.
Ouais, c'est impressionnant. Impressionnant.
Pour sauver tes petits-enfants des microplastiques.
Ouais.
Pendant que toi, tu es en train de vendre des chaussures en ligne.
Ouais. Non, mais tu sais, je lisais même dans le. Je ne sais plus sur quel site l'autre jour. Tu as des géologues, ils ont trouvé des pierres fondues dans du plastique. En fait, c'est des filets de pêche. Rejetés par les pêcheurs qui ont fondu au soleil et qui se sont mélangés en fait à des granulés de minéraux. Et donc en fait c'est vraiment, alors justement il disait, bah voilà, l'anthropocène c'est ça aussi, voilà, maintenant on va retrouver des pierres fondues avec du plastique au milieu de la nature dans le sable.
C'est incroyable. Et en fait à partir de ce jour-là, j'ai eu un dégoût profond pour la relation qu'on a avec la nature. Je me suis rendu compte que on était dans un cycle, mais c'est plus que néfaste en fait. C'est autodestructeur et c'est démoniaque en fait.
Ouais.
On est dans un cycle démoniaque. On est dans un cycle où on s'en rend pas compte. On est tous des petits démons là, et ouais. On est en train de flinguer la planche de bois qui nous tient du vide interstellaire qui est l'espace inhabitable.
Ouais,
et cette planche de bois est tellement minuscule, elle est tellement fragile, et c'est démoniaque. Et donc ça m'a retourné le cerveau en fait. Et du coup pendant toute la nuit, je regardais ce gars-là, là, Ocean Cleanup, et de là j'étais renversé et inspiré par le fait que tu peux avoir 20 ans, on avait levé 20 millions avec Gatlix, on était fiers. Le gars, il a levé 100 millions.
Eh oui.
C'est un truc de fou, 5 fois plus.
Eh
oui. Et en plus, il faisait un truc qui était tellement meaningful.
C'est ça.
Et donc, je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai pu passer à côté de ça en fait? Comment moi, qui avais fait la paillasse, qui avais été en contact avec tous ces ingénieurs en hardware et ces scientifiques, comment j'ai pu finir par... vendre des chaussures en ligne encore, quoi, tu vois. Et je me suis dit, voilà, il faut que je bosse avec des mecs comme ça, en fait, parce que sinon, je vais juste me taper déprime sur déprime, en fait. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtront à cette réalisation, en fait. C'est que tant que tu n'ouvres pas les yeux, tu es à Paris, tu t'es déprimé, tu prends ta bière tous les soirs, tu fumes ta clope ou tu fumes ton joint et le lendemain, boum, tu recommences. Et tu vis pas ta vie parce qu'en fait, tu es dans un carcan. Et ce carcan, il n'y a aucun Eldorado possible en fait. Il n'y a aucune sortie possible. Et c'est juste, il te faut un truc comme ça pour réaliser, ah putain, mais il y a des gars qui font ça. Il faut que quelqu'un te montre qu'il y ait des gens qui fassent les choses autrement pour que tu puisses penser, tiens, je peux utiliser mon temps, ma carrière dans la tech pour faire quelque chose d'utile. Mais si tu ne le vois pas, tu fais comme tout le monde. et c'est cette chose-là que je réalise. Tous les gens comme toi et moi, on est tous pareils. On est des mecs, on a la trentaine, on a grandi avec Star Wars dans la tête, on voulait changer le monde, et au final, on a les billes à payer, on a la meuf qui va nous faire un gosse bientôt, et on est, voilà, donc à un moment, on fait ce qui gagne de l'argent. Mais, en fait, le truc, c'est que tu peux aussi gagner de l'argent tout en faisant des choses qui sont game-changing, comme ce gars-là. Et ça, c'est nouveau. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, tu ne pouvais pas faire un truc bien et en même temps devenir riche, mais aujourd'hui ça a changé parce que Wall Street finance des jeunes comme Ocean Cleanup, finance des boîtes comme Tesla, et guess what, elles deviennent encore plus grosses que les boîtes de e-commerce en fait.
Quand
tu regardes les décacornes, la première décacorne c'est Tesla.
C'est ça.
Parce que c'est hardware, software, c'est les atomes.
Le mélange des deux, bien sûr.
Et le software ensemble. Et ça, c'est en fait ce truc incroyable que j'ai découvert les semaines d'après cet accident, c'est qu'il y avait cette énorme marché, transition et cette révolution industrielle, en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est en train de se passer où le hardware, l'atome, va redéfinir la tech. Et c'est une opportunité incroyable d'investissement, de carrière.
Ça, c'était pas que le fait des NGO et des associations. Ça, c'était vraiment des opportunités d'affaires. Il y avait des investisseurs qui étaient prêts à investir de grosses sommes dans des projets vraiment innovants avec une capacité vraiment de changer le monde.
T'as tout dit.
Voilà, et donc c'est ce qui t'a amené. Alors, je vois que l'heure tourne. Je ne sais pas si tu as encore beaucoup de temps. Peut-être qu'il faudrait
qu'on... On peut parler 10 minutes de plus, je vais...
Ouais, et on verra peut-être. Alors, comment dire, tu... Donc voilà, là, tu as pris conscience effectivement de cette situation et de ces opportunités. Et donc, peu de temps après, donc, tu te retrouves à fonder donc, ce fonds d'investissement dans les climate tech, dans l'énergie verte, dans l'économie verte, c'est ça?
Ça a été progressiste. Enfin, step by step, ça a mis beaucoup de temps. Effectivement, là, on a enfin eu notre licence l'année dernière sur le fonds à Singapour. On a fait un petit fonds avec 8 investissements, juste pour se mettre un peu les pieds dans l'eau et commencer, structurer l'équipe. J'ai une amie que je connaissais depuis 10 ans, depuis Paris. Elle était à Sciences Po à l'époque en échange, que j'ai re-rencontrée. Il y a 2 ans, et elle est devenue ma partenaire. Et donc là, on fait un deuxième fonds qu'on va essayer de clore à 25 millions cette année.
D'accord.
Mais la transition de l'accident à ça, je vais te l'expliquer.
Ouais.
En fait, après avoir commencé à découvrir du coup cette nouvelle industrie incroyable qui était en train d'émerger, de l'atome et du software, de la collision en fait entre ces deux éléments, j'ai continué à rechercher. Donc il fallait encore que je bosse sur GetLinks, mais petit à petit j'ai stepped out de CEO, je suis passé à chief strategy, en gros juste fundraising et produits et marketing, et ensuite petit à petit je suis sorti de ça avec l'exit qui s'est passé un an après. Mais quand même en parallèle, j'avais plus de temps et donc ce que j'ai eu la chance de faire, c'est bon, jouer beaucoup aux jeux vidéo, hein, je te le cache pas. quand tu exites, je passais 3 mois non-stop sur World of Warcraft, ma copine a pété un plomb, je dormais plus.
T'es revenu à tes vieux démons, tes vieilles passions.
Mais à côté, je recherchais quand même, tu vois, je faisais des Zoom calls avec des gars super intéressants, bah justement Ocean Cleanup, mais j'ai interviewé plus de 70 boîtes à ce moment-là, parce qu'en fait, c'est devenu un peu le truc qui m'a sorti du burn-out.
Ouais.
Chaque fois que j'ai rencontré des mecs comme ça, ça me donnait un dopamine spike.
Ouais, une dose de motivation, d'inspiration.
Et genre, tu vois, enfin, ce matin, j'étais avec... je faisais un Zoom call de routine avec une de mes portfolios. La boîte, c'est un Singapourien qui est à San Francisco et il fait du recyclage de batteries de Tesla avec des bras robotisés, tu vois. Et le gars, ce matin, là, je me réveille, franchement, j'avais la flemme de faire le call, tu vois. Je le fais quand même. Et il dit, tiens, on met la caméra un peu si tu veux, je te montre nos derniers trucs. Et il me montre l'usine, tu vois, dans laquelle ils sont, avec les bras robotisés qui sont en train de tourner. Enfin,
c'est Poche Robotics, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça, ouais. Et ouais, c'est incroyable, en fait. Tu vois, et tu te dis, t'es en train d'aider à créer un futur qui est beau, un futur qui est vert, un futur dans lequel tu veux habiter, quoi. Et c'est super motivant. Et donc, à cette époque, j'ai fait toutes les semaines, toutes les 2 semaines, j'avais des calls comme ça, avec des gens au début dans l'espace du plastique. Ensuite, c'est devenu un peu plus énergie, clean tech, énergie renouvelable. Ensuite, c'est devenu un peu agri-tech. Et au final, après 9 mois, j'avais tellement rencontré de gens. J'avais plus de 4000 notes dans mon iPhone, trucs que j'avais écrits, des petits bouts par-ci, par-là. Et je me suis dit, mais en fait, je vais tout oublier.
Ouais. problème.
Et donc ce que je me suis dit, c'est que bon, j'ai un peu de temps, je sais pas trop ce que je veux faire, mais peut-être qu'en écrivant un bouquin, bah ça va m'aider à rationaliser ce que j'ai appris et rationaliser mon expérience de GetLinks et de cristalliser qu'est-ce que je pourrais faire les 10 prochaines années, en fait.
Le master plan.
Et un peu le master plan, mais tout en même temps écrivant les nouvelles technologies du futur que j'avais eu l'occasion de découvrir en parallèle.
Oui, c'est le livre que tu as écrit, là, The Adaptive Economy, où tu partages tes retours d'expérience, déjà sur ton propre parcours, mais aussi suite à toutes tes discussions avec tous ces entrepreneurs avec qui tu as pu parler là, ces dernières années.
Oui. En fait, c'est un franchisme. Ça aurait dû être appelé The Adaptation Economy, mais j'aimais bien le côté adaptive.
Ouais.
J'aime bien. Donc, c'est l'adaptation. C'est l'adaptation du monde, en fait, dans la transition énergétique, dans la troisième révolution industrielle, qui est la combinaison des forces AI, des combinaisons du manque d'énergie fossile de la re-régionalisation qu'on voit avec le bloc les rouges et les bleus là, Russie, Chine versus équipe OTAN. Donc ces trois paramètres en fait vont redéfinir complètement le monde d'ici 2040. La manière dans laquelle nos villes vont être nourries, chauffées, bougées, va complètement être redéfinie par ces trois facteurs. Le facteur géopolitique, on le voit déjà. Le facteur crise pétrolière, on le voit aussi. Et le facteur AI, on commence à le voir. Et donc là-dessus, il y a tout un paradigme. Il y a tout un paradigme à réinventer parce que c'est des problèmes complexes sur lesquels seulement la combinaison de non seulement AI et énergie renouvelable et aussi philosophie en fait va être nécessaire parce que on a tellement de pouvoir, il va falloir mettre des limites. Et donc ce livre, c'est un peu mon forecast de 2040, c'est quoi les industries qui vont être inévitables, en fait, ce que j'appelais des opportunités. Donc j'ai listé 40 opportunités et chacune, ça peut être un marché sur lequel tu peux passer 20 ans.
Ouais.
Tu vois, je sais pas si. Attends, je vais trouver le bouquin. Donne-moi une seconde.
Ouais.
Voilà. Donc.
D'accord.
Tu vois là, donc c'est dans le chapitre 3, il y a les opportunités. Donc par exemple, bon bien sûr.
Tu as pris tous les secteurs les uns après les autres et tu t'es demandé comment ça allait être impacté.
Voilà, avec les technologies qui arrivent sur le marché. Donc là, tu vois, waste recycling, bien sûr.
Ah, forcément.
Mais aussi carbon capture.
Tu vois, oui, ça me passionne particulièrement celui-là.
Ouais. Donc,
pareil, c'est marrant parce que tu vois, il y a une startup que je suis depuis pas mal de temps et je voulais t'en parler. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, vous étiez associé à eux, Running Tide. Voilà, la capture du CO2 grâce aux algues et profiter de ce phénomène naturel qu'est la gravité pour tout simplement laisser faire la nature pour capturer le CO2 et laisser faire la gravité pour l'emmener au fond des océans pour que ça y soit stocké pour des millions d'années.
Ouais. Alors, on n'est pas
à scaler.
On n'est pas associé.
Oui, pas associé, mais vous allez les aider sur des prototypes, vous êtes en discussion.
Alors, je suis en discussion avec leur Head of Science, qui est français aussi d'ailleurs.
Ah oui ?
Et en fait, le CEO est un peu coquille, donc il ne voulait pas me parler.
D'accord.
je voulais investir un petit peu ou essayer de voir pour les connecter avec un des conglomérats que je connais ici.
Ouais.
Parce qu'il trouvait le concept génial, mais le CEO ne veut pas me parler.
Ah ouais.
Du coup, en fait, on a commencé à copier leur truc l'année dernière.
Ok. De toute façon, je veux dire, c'est une idée qui fait sens. Elle mérite d'être copiée, hybridée, améliorée, déclinée, ouais. Déployée.
Ouais, exactement. Donc,
contribuer à la. Je pense qu'ils seraient les premiers à la mettre à vie, quoi, de savoir que l'idée germe et fait son chemin.
Exactement. Donc, Running Tide. On a un pilote de 100 mètres carrés.
D'accord.
On a commencé il y a un an à Phuket.
D'accord.
Ouais. Là, on est en train de le scaler à 1000 mètres carrés.
D'accord. Donc là, c'est de la culture d'algues en bac, à terre ou en
Alors,
mer?
les deux.
Les deux.
Premièrement, en terre pour créer les pousses.
Les
Et une
pousses.
fois qu'elles sont matures, tu les mets en mer
Ouais.
et là, tu les grandis.
Ouais.
Et là, donc, on est en discussion avec une grosse boîte d'énergie et Air France pour potentiellement scaler un plus gros pilote
D'accord.
qui pourrait en fait permettre la première vente des carbone crédits à Air France.
D'accord. Avec cette même idée de laisser les pousses donc grandir par elles-mêmes, accrochées à leur support, et au bout d'un moment, le support se dissout et
Oui, voilà.
la pousse de. Parce que c'est vrai que ce que les gens doivent comprendre, c'est que les algues, c'est la plante finalement qui pousse le plus vite.
Le
Qui
plus
pousse le
vite.
plus vite et qui stocke une quantité de carbone extraordinaire, quoi. Donc le rapport.
100 fois plus de carbone qu'un arbre.
Les gens se concentrent sur les arbres, alors que les arbres, ça reste fragile. Est-ce qu'on est sûr que les forêts resteront là pendant des millions d'années?
Oui,
Sachant
un
qu'en
feu de
plus,
forêt,
le monde va se réchauffer, il y a des risques incendies. Je veux dire, il y a pas tant de surface disponible non plus. Parce qu'au bout d'un moment, il faut choisir entre ça et l'alimentation. L'océan est infini, il faut juste un peu de nutriments. Donc, bon, si tu places ça au bon endroit, et après, ça coule tout au fond. Alors, techniquement, ce n'est pas un problème qui est complètement résolu, hein, si j'ai bien compris, parce qu'il faut savoir où est-ce que ça va aller, combien de temps ça va vraiment pouvoir. Il faut que ça tombe au bon endroit pour que ça sorte vraiment du cycle carbone pendant assez longtemps. Mais c'est vrai que c'est très prometteur. J'ai trouvé l'idée vraiment géniale, génialissime. Donc, vous êtes en train d'expérimenter là-dessus aussi à votre niveau. C'est top.
On le fait de notre côté. Bienvenue dans Carbon Farm. Tu peux la trouver sur notre site internet. Donc
Ouais, je mettrai tous les liens vers
c'est
le livre aussi.
notre neuvième investissement. Celui-là, par contre, on le
D'accord.
venture build nous-mêmes.
Voilà, c'est ça. C'est le Pala Ventures. Vous avez créé votre venture builder en interne aussi. C'est ça pour lancer
Ouais,
le
alors
nom des
c'est pas
projets.
vraiment un énorme venture builder. On appelle ça un studio parce qu'on veut pas créer de boîte. C'est juste que on veut en créer deux.
C'est ça. Ouais.
Mais c'est tout.
Pour commencer.
Non, parce que j'ai déjà créé une boîte et je te dis, c'est.
Ouais, c'est tout travail.
Toi aussi, tu l'as vu.
C'est vrai que tu peux pas tout faire. Tu peux pas soit t'investir, soit tu développes des boîtes. Si tu veux trop en
Voilà.
faire, après ça devient compliqué, quoi.
Donc là, le modèle, c'est vraiment corporate, en fait.
Ouais.
Donc on crée le pilote avec les corporates. Éventuellement, ça va devenir un business des corporates. Et nous, on fera notre exit très très rapidement. C'est pas un truc où je vais être un Mark Zuckerberg de la Seaweed. Tu vois, c'est pas
Ok.
le plan, c'est que les corporates puissent l'amener
Ouais.
à terme et surtout le développer le plus possible parce que c'est là où le vrai impact est. Parce que
Bien
si
sûr.
c'est juste une boîte, ton champ d'action est très limité. Alors que si c'est une corporate qui fait 30 milliards de dollars, s'ils veulent faire le truc mass scale, ils peuvent le faire. Donc là, typiquement, on est en discussion avec PTT, qui est la plus grosse boîte d'énergie ici,
En Thaïlande.
pour utiliser, certes, une de leur puits de pétrole en haute mer. C'est
D'accord.
les trucs comme ça, là,
Ouais, les plateformes offshore.
les plateformes pétrolières,
Ouais.
pour développer une phase 3 qui serait de 10 000 mètres carrés.
D'accord.
Mais bon, discussion early stage, mais
À suivre.
bon, voilà,
À suivre. Il
à
faut
suivre.
s'abonner à ta newsletter pour être au courant
Ah bah oui.
des lancements. Je mettrai tout ça en lien.
Non, sur LinkedIn, on va faire un partage sur LinkedIn.
Ouais, et juste ouais, donc pour terminer aussi, donc ce fonds d'investissement, donc il y a eu donc un premier fonds qui a été une première enveloppe qui a été levée. Là, vous avez déjà investi dans 8, 9 ventures. Vous avez investi tout ce que vous avez levé déjà, c'est ça? Et là, vous êtes en train de lever un deuxième fonds, c'est ça?
Deuxième fond, voilà.
Donc le premier fonds est bouclé là. Ce sont les 8-9 investissements qu'on peut voir listés sur le
Ouais.
site. C'est ça.
Exactement.
C'est ça. Et donc là, vous aviez levé combien sur le premier fonds?
On a levé seulement 1 million.
D'accord.
1 million. Donc, on a fait des tickets à 100K en average.
D'accord.
Et ces 1 million, il y a eu deux boîtes qui ont déjà levé des gros rounds. Donc, on est sur 247% de NAV increase là, sur les 12
D'accord.
derniers mois.
Vous êtes en early stage, évidemment, donc avec des tickets comme ça, vous êtes au tout
Early stage.
début.
Donc
Donc,
après, faut attendre 4, 5 ans hein, pour avoir des
ouais.
exits sur ce type de
Non,
deal.
mais surtout que c'est risqué. Quand tu es au tout début, c'est là où il y a le plus de risques. Alors,
Ouais.
tout le mérite est d'effectivement identifier les opportunités assez tôt, sachant
Ouais.
qu'en plus, ça reste risqué. Donc, bon,
Ouais.
c'est.
C'est du casino, sauf que tu contrôles un peu plus les paramètres.
Ouais.
Typiquement, nous, parce qu'on bosse avec les corporates, on a deux sources d'exit. En fait, on peut faire un early exit si on veut avec la corporate. Qui va, dans le worst case scénario, va pouvoir racheter l'IP qui a été produite.
Ouais.
Donc ça, c'est notre solution de exit de secours. On a la deuxième option où on peut vendre les shares de nos boîtes à la corporate sur la série A.
Ouais.
Donc, parce qu'on investit dans le site, donc série A, on peut revendre des shares. Et ensuite, bien sûr, on peut faire les exits normaux. Donc, c'est au risque, mais parce qu'on est dans des trucs qui sont super intéressants avec de l'IP, il y a des choses un peu différentes que dans le software, on peut faire.
Et là, donc le deuxième fonds qui se profile, là, déjà, on change d'échelle. Donc, on est, tu
Plus
disais.
série A. Donc oui, 25 millions, on fera quelques séries A. Mais le but, c'est de faire 35 investissements
35 investissements, d'accord.
avec 5 follow-up sur
D'accord.
notre propre portfolio.
Donc là, vous êtes parti sur un cycle d'au moins 5 ans, quoi, là-dessus.
Ouais.
Super. Et donc là, vous n'avez pas encore commencé à investir avec ce nouveau cycle. Là,
Non, non, non.
donc, vous êtes en phase de recherche permanente, finalement, d'opportunités
On a,
dans le monde entier.
on recherche toujours des deals. Parce que nos LP, en fait, on bosse pour eux dans un sens où ils ont des critères très particuliers et on doit leur envoyer des deals constamment. En fait, ce qu'on va annoncer très bientôt là, mais je peux te faire un teaser pour tes amis, c'est qu'on va créer un award, en fait, une fois par an.
Ouais.
Où les 4 plus gros conglomérats avec lesquels on bosse, qui sont des conglomérats à plus de 30 milliards chacun,
Ouais.
unlimited money
Ouais, OK.
potentiellement, vont faire ce qu'on appelle un reverse pitch
D'accord.
sur typiquement la carbone capture ou sur les batteries ou sur les alternatives au air conditioner, par exemple. Et ils vont faire ce qu'on appelle un appel aux startups. Un reverse pitch,
D'accord.
c'est un appel aux startups pour que des startups du monde entier puissent
Un
apply,
appel à projet, un appel à.
appel à projet, pour qu'ils
Ouais.
puissent apply. Et cette application, ce sera sous forme de notre award. Et une fois par an, on fera notre sélection de ces finalistes qui
D'accord.
pourront ensuite venir pitcher à Singapour. Pour la grande finale avec les corporates et avec un chèque à la clé.
D'accord.
Donc on est en train de réfléchir à ça avec 4 corporates là. Et ça, c'est comment on crée notre deal flow en fait.
Pour attirer les projets à vous, en fait, c'est ça. Voilà. Partir des corporates qui sont prêts à investir beaucoup d'argent,
Ouais.
on les laisse partager leurs critères ou ce qu'ils recherchent. On communique dessus, puis voilà, comme ça, on motive les startups, elles viennent à vous.
Ouais, et puis surtout, il y a un problème dans la startup, c'est qu'il y a beaucoup de gens, on n'est plus en 2012, quoi. Tu vois, tu crées pas une startup parce que tu aimes bien aller au restaurant, donc tu crées une food app, quoi. Faut que tu saches quel est le problème dans le monde d'abord. Et
Voilà.
ensuite, si tu as une affinité avec le problème, là, tu montes un business dessus.
Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus les fonds d'investissement qui établissent leur thèse et qui la communiquent et qui ne cherchent pas juste à aller voir quels sont les projets qui existent déjà qu'il faut aider. Non, ils cherchent à motiver les entrepreneurs à se pencher sur ces sujets. On sent bien de la part des investisseurs l'envie maintenant de guider un peu les aspirations des entrepreneurs pour les amener sur les sujets. Par exemple, sur la generative AI. Il y a quelques fonds dans la Silicon Valley qui ont une thèse très très claire sur le sujet et ils sont en mode appel à projet, venez investir sur ces sujets, c'est l'avenir.
Exactement.
Donc c'est vrai que
Exactement.
c'est intéressant de voir la relation en fait comme ça qui s'établit entre investisseurs et start-upeurs. Super, ben non, on a fait un bon tour d'horizon, j'avais encore un certain nombre de questions, mais là on est un peu pris par le temps. Merci John pour le temps que tu nous as consacré.
Merci à
Je mets,
toi.
je, je mettrai en lien toutes sortes de, je mettrai en, ouais, en, toutes sortes de liens aussi avec le podcast pour que les gens puissent cliquer au besoin. Et voilà, on a fait un beau tour d'horizon. Bravo à nouveau pour tout ce que tu as fait. Puis je vois que c'est que le début, donc on aura peut-être l'occasion de faire un autre tour d'horizon un peu plus tard.
Ouais, c'est moi qui t'invite la prochaine fois. On va faire une interview.
Ouais.
Et on restons en contact, faisant un autre call, juste toi et moi, où je vois si je peux t'aider ou on peut faire des choses ensemble, OK?
Ça marche. Allez, allez, bonne journée. Bonne journée, John. Ciao.
À plus tard. Ciao, ciao.